Bien. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Je crains que ce ne soit pas seulement mon mérite qui attire autant de monde, mais malheureusement, les événements en cours, je dois dire que bon, nous avons tous pratiquement, connaissons tous au moins quelqu'un qui a perdu quelqu'un de proche dans les événements de vendredi soir. C'est aussi pour rappeler que... Qu'est-ce que c'est qu'un événement ? Ça, c'est un problème essentiel pour les historiens. Il y a des choses qui se produisent, évidemment. Mais ce que font les historiens, au même titre que les politiques, les journalistes, etc., c'est d'essayer de donner du sens aux événements. Chacun, évidemment, dans son registre particulier. Et ici, le cours d'aujourd'hui n'a pas ce pour sujet, surtout qu'on a abordé un petit peu cette question ce matin, parce que nous avions un séminaire sur la Syrie actuelle ce matin. Mais je dois dire que l'un des buts recherchés par les instigateurs des événements est de diviser les populations, de provoquer des groupes, des hostilités entre des groupes. Ils ont fait ça magnifiquement au Proche-Orient, en divisant les populations en Liban, en Syrie et en Irak. Et c'est absolument ce que nous devons éviter de faire ici, parce que ce serait jouer exactement sur ce que les auteurs de l'attentat voulaient faire. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Vous avez là affiché une publicité clandestine qui est pour vous rappeler que le contenu des cours des 5 dernières années ont maintenant été publiés. Donc, c'est le tome 5e de la question de la Palestine, la paix impossible chez Fayard. Ça vient de sortir il y a quelques semaines. Donc là, vous avez la version complète, parfois un peu différente de la version orale qui vous avez eue ces dernières années, mais vous voyez que le travail du cours aboutit à une publication. Donc, c'était donc pour signaler cela. L'année dernière, j'avais entrepris un projet avec vous qui devait consister à voir un peu les prémices de ce qui aurait été la Grande Guerre au Proche-Orient. Enfin, c'était le projet initial. Et évidemment, comme je l'explique toujours à mes étudiants, une recherche, c'est un dialogue entre le chercheur et sa documentation. Il s'est avéré que j'ai progressivement glissé sur autre chose parce que la documentation me parlait d'une certaine façon et me signalait que il y avait des tas de choses qui méritaient d'être revisitées sur cette seconde moitié du 19e siècle qui finalement est extrêmement mal connu. Alors, rassurez-vous, on arrivera un jour à la guerre de 14, mais parti comme c'est parti, je me donne au moins 3 ou 4 ans de cours pour y accéder. Donc, je sais que certains seront peut-être désolés. Le sable chaud contre la boue des tranchées, ce n'est pas pour tout de suite. En fait, ce que j'envisage de faire, ce que j'appellerais pompeusement une histoire d'Occident ou d'Orient ou d'Orient ou d'Occident, mais qui revient à une idée tout à fait simple et qui est tout à fait d'actualité, c'est que ces mondes ne sont pas séparés, ils vivent en interaction. Et ce que j'essaye d'entreprendre dans ce cours, c'est un peu de décrire les jeux des interactions pour la seconde moitié du 19e siècle, au moins pour le cours de cette année, et probablement au moins pour le cours de l'année prochaine, voire au-delà. Et je dis bien interaction et non pas influence directe ou manipulation de l'un par l'autre. L'année dernière, je vous avais laissé à l'époque dite des Tanzimat, des réformes ottomanes, la grande époque symbolisée par les deux grands réformateurs ottomans, Ali Pacha et Fouad Pacha. Évidemment, ces réformes ottomanes ne se construisent pas dans le vide. Elles se construisent sur le fait tout simplement que la société ottomane se transforme à toute vitesse dans ce milieu du 19e siècle, qu'au départ nous avions encore une société d'ordre assez analogue à celle qu'était l'Ancien Régime en Europe, et les transformations accélérées du 19e siècle, même le démantèlement de cette société, démantèlement d'une société qui était régie par un système juridique qui lui-même s'exprimait par ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la loi islamique. Et en tout cas, il y a eu des ébranlements totaux, et en particulier dans les conditions posées par la guerre de Crimée, l'émancipation des non-musulmans dans la société ottomane. Et je vous avais expliqué que, contrairement à ce qui s'était passé en Europe, c'est-à-dire que l'émancipation des non-chrétiens en Europe avait été faite sur une base individuelle. Tout le reconnaître en tant qu'individu, tout le refuser en tant que nation, tel avait été le mot d'ordre de la Révolution française à propos des Juifs de France. Et ceci avait été adopté comme principe général dans l'ensemble de l'Europe. N'oublions pas que cette émancipation des non-chrétiens ne s'achève en Europe que dans la décennie 1860. En Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, ce n'est que dans la décennie 1860 que les Juifs obtiennent la plénitude des droits politiques. Contrairement à la France, où évidemment, depuis la Révolution, ils ont la plénitude des droits politiques. Et évidemment, en Europe de l'Est, bien au contraire, se met en place dans l'Empire tsariste un système discriminatoire envers les non-chrétiens et en particulier envers les Juifs. Alors, dans l'Empire ottoman, ce qui avait été adopté comme principe, ne serait-ce qu'en fonction des héritages historiques, des structures sociales et du jeu des protections étrangères, ce n'est pas une émancipation d'individus, mais une émancipation de collectivité, de communauté. C'est la communauté qui est émancipée et elle devient un rouage de l'État ottoman. Et en tant que rouage de l'État ottoman, elle trouve une représentation dans les institutions ottomanes en fonction d'un ratio plus ou moins déterminé à l'avance, d'après ce qu'on estime être l'importance démographique de telle ou telle communauté. Comme en 1850, on est encore dans un système de notables, il n'y a pas d'élection. On sait qui représente une communauté, puisqu'on va choisir les notables de la communauté, mais ultérieurement, on procédera à des élections communautaires pour déterminer qui représente une communauté dans les rouages de l'Empire. Ceci a eu un impact dans le Proche-Orient. Étant donné que le Proche-Orient connaît une crise politique, une crise morale, une crise sociale et une crise économique absolument intense dans les années 1850, ne serait-ce que vous avez un effondrement de l'économie urbaine avec l'arrivée massive des produits manufacturés européens, et de l'autre côté, vous avez une montée en puissance des chrétiens d'Orient qui semblent triompher sur tous les domaines. Leur démographie, leur croissance démographique est supérieure à celle des musulmans. Leur niveau d'éducation est nettement supérieur à celui des musulmans grâce à l'action des missions chrétiennes, catholiques et protestantes. Et leur position économique devient de plus en plus dominante parce que les chrétiens contrôlent les circuits économiques qui accompagnent la pénétration économique européenne. Ceci avait donc conduit au désordre d'Empoli de 1860, qui a amené des affrontements sanglants entre Druzes et Maronites dans la montagne libanaise, et ensuite le massacre des populations chrétiennes de Damas par la population sunnite de la ville, toujours en 1860. Et la France, inventant le droit d'ingérence, envoie une armée au Liban, au nom de l'Europe, mais évidemment dans le cadre d'une concertation européenne, ce qu'on appelle à l'époque le concert des puissances. Et donc, si l'armée française débarque à Beyrouth, il y a aussi une arrivée de représentants diplomatiques européens chargés de faire une conférence pour déterminer l'avenir de la région. Les Ottomans avaient compris tout à fait le danger et immédiatement après le début des troubles, Fouad Pacha, donc le grand vizir réformateur, enfin le vizir réformateur n'était pas grand vizir, c'était Ali Pacha qui était grand vizir, donc Fouad Pacha est venu se précipiter à Damas et il a commencé par faire une série d'exécutions de notables de Damas pour les punir des massacres. Même s'ils n'étaient pas responsables des massacres, ils étaient responsables du fait qu'ils n'avaient pas tenu la population en main lors des massacres, et ceux qui n'avaient pas été pendus par Fouad Pacha, un paquet, avaient été exilés. Ce qui fait que les Français avaient été obligés de s'arrêter dans leur progression militaire, puisque l'affaire avait été réglée à Damas par Fouad Pacha. Alors, ce qui est passionnant pour la suite de l'histoire, dans ces événements de 1860, c'est que la discussion porte entre les Ottomans et les puissances européennes sur l'avenir de la Syrie. Or, le terme Syrie est un néologisme. Le mot Syrie a une origine grecque, bien connue, venue de l'Antiquité. Dans l'Antiquité classique, Syrie a servi d'abord à désigner chez les géographes grecs toute la région allant de la mer Noire, le pont Euxin chez les géographes grecs, jusqu'à l'Égypte, où, autre distinction des géographes antiques, la Syrie était la province perse de Trans-Euphratène, c'est-à-dire d'au-delà de l'Euphrate, entre l'Euphrate et la Méditerranée. Et en ce sens-là, le mot Syrie ne serait que la corruption latine et grecque du mot Assyrie. Aux époques suivantes, les Romains ont distingué entre la province de Syrie, avec les rois de Syrie, les Séleucides, l'existence de circonscriptions administratives distinctes, dont l'une s'appelait Phénicie, et l'autre Judée, ce qui est intéressant puisque nous voyons le même clivage entre Palestine, Liban et un territoire portant le nom de Syrie. Ensuite, on a la province romaine de Syrie qui va de l'Euphrate à l'Égypte, même s'il y avait des subdivisions comme les trois Palestines de la fin de l'époque romaine. Après la conquête arabe, la région considérée devient le pays de Damas, Bilad al-Sham, Sham étant Damas en arabe. Ce serait le pays de la gauche par rapport au Yémen, qui serait le pays de la droite, mais ça me paraît une étymologie plus que douteuse. N'oubliez pas que pour les géographes anciens et pour les géographes arabes, les cartes ne sont pas orientées vers le nord, mais vers l'est. Donc la Syrie est à gauche et le Yémen est à droite sur ces cartes. En tout cas, le mot Syria est encore usité par les géographes arabes, mais pour une petite portion de Bilad al-Sham, du pays de Damas. En revanche, pour les Européens, l'époque moderne, les Européens utilisent tout à fait couramment le mot Syrie dans leurs ouvrages de géographie. Et ce serait donc l'expédition de Bonaparte en 1798 qui a réintroduit le mot Syrie, puisque en 1799, les Français font une campagne de Syrie qui en fait a lieu en Palestine. Et vous savez peut-être que l'un des grands hymnes bonapartistes et napoléonien dans la France du XIXe siècle, et la chanson « Nous partons pour la Syrie ». Les locaux auraient donc commencé à réutiliser le terme « Syrie » à force d'entendre les Européens l'utiliser, malgré les occurrences anciennes en arabe. Et évidemment, durant la période dite égyptienne, 1833-1840, comme c'était les guerres de Syrie, l'usage s'est vraiment répandu à ce moment-là, donc du fait que, en 1860, l'armée française qui part pour Beyrouth fait une expédition de Syrie. C'est donc bien aux alentours de 1860 que le sort de l'islam a paru le plus compromis devant la conjonction de l'irrésistible avancée des puissances européennes et la résurgence des chrétiens d'Orient. La guerre de Crimée n'avait fait qu'aménager la restauration des États chrétiens des Balkans. Et on commence déjà à s'interroger sur le sort de l'Anatolie, qui devrait-elle rester musulmane ou devrait-elle redevenir chrétienne. Mais en même temps, le programme des réformes de l'État est entré en voie d'accomplissement, ce qui implique la centralisation du pouvoir. Quand Fouad Pacha fait pendre les notables de Damas, ce n'est pas simplement pour les punir, c'est pour signaler que la capitale reprend le contrôle de la province et qu'on a fini avec ces autonomies héritées du XVIIIe siècle. Comme il est de règle à la suite de la crise d'Orient, on passe à l'étape suivante, qui est la recherche d'une solution politique par le biais d'une commission internationale discutant avec le pouvoir impérial. Et il est composé des représentants des 5 puissances, la France, la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, ce qui provoque les protestations du Piémont-Sardaigne, qui n'a pas été invité à la conférence. Aujourd'hui, on appellerait ça conférence de Genève ou conférence de Vienne. Bon, à l'époque, il y a commission internationale et elle siège à Beyrouth pour le moment. Les militaires français présents au Liban sont des catholiques fervents qui poussent à une séparation des populations qui donnerait aux chrétiens la plus grande partie de la montagne. Ils constitueraient ainsi un ensemble homogène sous protection française, ce qui est évidemment inacceptable pour les Britanniques comme pour les Ottomans. Fouad Pacha, pour limiter les revendications françaises, ordonne l'arrestation d'un certain nombre de chefs druzes, puis ensuite, appuyé par les Britanniques, il réussit à limiter les condamnations. On joue que sur l'argument que, contrairement à ce qui s'est passé à Damas, les chrétiens portent une part de responsabilité dans les violences qui ont ensanglanté la montagne. L'entourage de Napoléon III est favorable à la constitution d'une Syrie autonome sous forme d'un royaume arabe confié à l'émir Abdelkader, qui est installé à Damas depuis quelques années et qui est devenu un héros mondial, enfin en tout cas européen, par le fait qu'il a protégé les chrétiens de Damas lors des massacres. Sondé par les diplomates français, l'émir a répondu par la négative, expliquant ses raisons, je cite, « Que la Turquie se rassure, ma carrière politique est finie, je ne désire plus rien, je n'ambitionne plus rien des honneurs et de la gloire de ce monde, je veux vivre désormais dans la prière au Dieu Très-Haut, dans la paix qui doit précéder mon départ de la terre, dans les 12 joies de la vie de famille. » C'est que, vous savez, l'émir est aussi un grand mystique et que depuis la fin de sa carrière politique, il se consacre à sa vie mystique et à ses écrits religieux. De surcroît, il faut être clair, l'émir est très hostile aux réformes ottomanes qu'il considère comme trop européanisantes, en quelque sorte. Donc, accepter une fonction politique, ce serait entrer dans le jeu de ces mesures ottomanes qui lui déplaisent. Donc, l'émir étant hors-jeu, c'est aux Britanniques de faire à leur tour les propositions, en suggérant la constitution d'une vice-royauté syrienne sur le modèle de l'Égypte, dotée d'un pouvoir central fort, et avec le principe de fusion et non de séparation des populations, ce qui signifierait l'abolition du statut particulier de la montagne libanaise. L'ensemble syrien serait confié à un homme à la forte personnalité, c'est-à-dire Fouad Pacha, et soumis à la tutelle collective, au moins de façon temporaire, des cinq puissances. La Russie, l'Autriche et la Prusse s'opposent à ce projet, considéré comme irréalisable et qui ne prend pas en compte les intérêts des populations chrétiennes. Elles permettent ainsi au ministre ottoman des Affaires étrangères, à Ali Pacha, de contrer le projet britannique au nom du principe de l'intégrité de l'Empire ottoman dans une lettre circulaire adressée le 22 janvier 1861 aux puissances. Tout ce qui est donc à vous dire, c'est que le plan en question ne tend rien à moins qu'à ériger une nouvelle principauté quasi indépendante soumise à la direction d'une commission européenne, en d'autres termes, de séparer la Syrie de la domination ottomane. Et Ali Pacha se permet de donner la leçon aux Anglais, qui après tout ne sont pas montrés plus brillants en Inde, puisqu'ils viennent de surmonter la révolte des Sipayes, mutiné, comme on dit en anglais, en 1858 en Inde. Je cite, « La Grande-Bretagne a eu aussi, il n'y a pas longtemps, des désastres pareils à déplorer et à réprimer dans ses positions de l'Inde orientale. Personne n'a songé à accuser l'administration anglaise de négligence ou d'incapacité. Comme nous, elle a été surprise par les événements et comme nous, elle a rempli son devoir en infligeant des punitions sévères aux auteurs des forfaits commis. » Donc, une fois que les Anglais sont écartés, après avoir que les Français aient été écartés, on peut arriver à la solution ottomane, qui consiste à un renforcement de la centralisation avec présence militaire, constitution de conseils provinciaux composés des membres appartenant aux différentes communautés et ayant des attributions clairement définies. Du coup, les Français qui sont en retrait propose de limiter le sujet à l'avenir de la montagne libanaise, où l'armée française stationne. Et avec l'appui du patriarcat maronite, on discute sur la taille de cette future province du Liban. Le patriarcat voudrait une vaste province libanaise annexant la plaine de la Bekaa et les régions maritimes, mais c'est inacceptable pour les Ottomans. C'est en fait ce qu'on appellera le Grand Liban, qui sera réalisé par le général Gouraud le 1er septembre 1920, mais ça faut 34 ou 5 ans pour que nous y arrivons au 1er septembre 1920. Donc, les Français voudraient que cette province libanaise réduite soit donnée aux Maronites, mais du coup, les Russes s'y opposent en disant qu'il n'est pas acceptable de laisser les Grecs orthodoxes, donc les mêmes, qui sont de la même religion que les Russes, soumis à des chrétiens catholiques. Et évidemment, Fouad Pacha joue très bien en opposant les uns et les autres dans la commission. Et en même temps, Fouad Pacha va encourager un groupe de jeunes ou moins jeunes intellectuels syro-libanais pour essayer d'exprimer de nouvelles idées qui permettraient de dépasser les clivages communautaires. Ce petit groupe d'intellectuels est regroupé autour de Boutros al-Boustani, un maronite au départ qui a été formé en 1819 et il a appris les langues européennes. Il a été droguement, c'est-à-dire interprète, voilà, Boutros al-Boustani, par les forces britanniques en 1840. Puis, il a travaillé avec les missionnaires américains et avec eux, il a entrepris une nouvelle traduction de la Bible en arabe. Je dis une nouvelle parce que les protestants ne savaient pas que la Bible était déjà écrite en arabe depuis des siècles, puisque eux, ils arrivent avec leur Bible. Et donc, après s'être converti au protestantisme, on va terminer la traduction de la Bible en arabe, Boutros al-Boustani, c'est après ses distances et se consacre à la renaissance de la langue et de la littérature arabe. Et donc, dans le contexte de 1860-1861, il publie une revue qui a quelques numéros qui s'appelle Le Clairon de la Syrie, Nafir Souria. Il y aura 11 numéros entre septembre 1860 et avril 1861. Et dans ce texte, on parle d'une identité syrienne, arabe et ottomane. Donc non seulement maintenant, nous avons des diplomates qui discutent d'un enjeu géopolitique qu'ils appellent Syrie, nous avons maintenant des intellectuels locaux qui constituent un programme politique autour de l'idée syrienne. Dans la pensée de Boustani, il y a une véritable philosophie. La religion consiste fondamentalement dans la relation de l'homme avec son créateur. La civilisation concerne les rapports des hommes entre eux et avec leur gouvernement. Donc, tant qu'on n'aura pas séparé la religion de la politique, il n'y aura pas de progrès possible. Il faut donc que l'on introduise des institutions ouvrant à la culture, aux arts et aux métiers et à l'industrie moderne. Et toutes les fonctions de gouvernement doivent être ouvertes à tout le monde sans clause d'origine. La recherche du bien public mettra fin aux ingérences étrangères. Le respect de la religion, l'amour de la patrie commune et le développement de l'instruction sont les meilleurs qu'apporte la civilisation occidentale, que l'on ne doit pas imiter aveuglément et sans esprit critique. Ce sont donc toute la thématique des écrits de Boutros Boustani. Donc c'est en même temps que la naissance de l'idée syrienne et les premières fois que quelqu'un se définit comme arabe au sens moderne du terme. C'est aussi l'introduction d'une idée de la séparation de la religion et du politique. C'est pour ça que Boutros al-Boustani est considéré dans l'histoire comme l'inventeur, en quelque sorte, de la modernité dans cette région du monde, même si, évidemment, il y avait d'autres écrivains qui étaient en contact avec la pensée européenne et qui avaient d'autres perspectives que lui. Alors, la Commission a travaillé sur un thème qui est central dans les écrits des Européens jusqu'à aujourd'hui, c'est l'idée de séparation ethnographique des populations. Puisque ces gens de ces massacres, il faut les séparer pour qu'il y ait des zones homogènes. Donc, dans les textes, il faut faire des limites ethnographiques, c'est le terme utilisé dans les discussions diplomatiques de 1860. Puis on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas arriver à faire des divisions ethnographiques parce qu'il y a toujours quelque part quelqu'un qui n'appartient pas à la même communauté qui se trouve là. Donc on serait constamment en train de subdiviser, puis de rediviser et encore rediviser presque à l'infini la région. Et c'est vraiment typique. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, on avait fait un essai à Beyrouth. On essayait de faire simplement la cartographie des communautés libanaises, non pas celles qu'elles prétendaient être, mais celles qu'elles étaient en réalité. Et on s'était aperçu que c'était pratiquement impossible à faire. Que les zones qui étaient dites chrétiennes ou musulmanes, ce n'était pas du tout comme ça dans le réel. Et ça, c'était évidemment en 2002. Alors imaginez bien en 1860 faire ce genre d'opération. Puisque la commission n'a pas pu trancher, en avril 1861, elle met fin à ses travaux et on transmet le dossier à la conférence des ambassadeurs qui se tient à Constantinople. Et on en revient à l'idée d'un territoire correspondant à l'ancien émirat de la montagne libanaise, à condition de trouver un équilibre politique entre les uns et les autres. La question principale est de savoir qui va gouverner la montagne. Les Français voudraient que ce soit maronite, parce que c'est la communauté numériquement la plus importante, mais les autres n'en veulent pas, parce que les musulmans n'en veulent pas, évidemment, et les Grecs orthodoxes n'en veulent pas non plus. Si on accordait une autonomie provinciale totale au Mont Liban, eh bien, on enclencherait un processus identique à ce qui se passe dans les Balkans, c'est-à-dire qu'on reconnaît une autonomie provinciale et au bout de 30 ans, ça devient un État indépendant. Et ça, les gens sont parfaitement conscients du danger. Donc, il n'est pas possible de procéder de cette force. Donc, on trouve un compromis. Le Liban sera administré par un gouverneur chrétien nommé par la porte et relevant d'elle, ce qui ne veut pas dire que ce gouverneur chrétien soit originaire du Mont Liban. En fait, implicitement, il ne l'est pas. Mais on ne le dit pas dans le texte. Évidemment, ce gouverneur chrétien ne pourra être nommé par la porte qu'à condition d'avoir l'approbation des cinq puissances. Ce qui conduit au règlement du 9 juin 1861. Donc, il y aura un gouverneur chrétien nommé par la porte avec l'approbation des puissances et toute une série de conseils administratifs et judiciaires dont les membres, je cite, seront choisis et désignés après une entente avec les notables par les chefs de leurs communautés respectives et institués par le gouverneur. Le but officiel de ce passage est de supprimer le pouvoir de ce qu'on appelle, entre guillemets, les grands féodaux de la montagne, les anciens fermiers fiscaux, Mokhtar-e-Djihin, de la montagne libanaise. Mais en réalité, ce texte est fondamental parce qu'elle invente le confessionnalisme politique. On va répartir la représentation politique dans les conseils en fonction de la taille respective des communautés. Et dans la même logique, les emplois de fonctionnaires seront distribués aussi selon l'importance des communautés. Donc c'est en ça que le règlement de juin 1861 est fondamental, puisqu'il introduit la formule du confessionnalisme politique qui va durer jusqu'à nos jours au Liban. C'était le prix à payer pour mettre fin à la fois à l'ancien ordre dit féodal de l'émirat, mais aussi pour éviter une autonomie réelle qui ouvrirait la voie à une balkanisation du Proche-Orient. C'est d'ailleurs l'un des derniers actes du sultan Abdulmejid, qui décède le 25 juin 1861. Il est remplacé par son frère Abdelaziz, qui annonce sa volonté de continuer la politique des réformes. Je lui ai dit, la dernière fois, l'année dernière, 1860, nous sommes en naissance de l'humanitaire. Vous vous rappelez, ça correspond au lendemain de la création de la Croix-Rouge, après la bataille de Solferino, par Henri Dunant, donc 1858. La crise libanaise et syrienne a accentué l'action des missionnaires. C'est évidemment l'impulsion est donnée par l'œuvre d'Orient créée par l'abbé Lavigérie, le grand futur cardinal Lavigérie, le fondateur des Pères Blancs et évêque de Carthage à la fin de sa vie. Donc, Lavigérie a créé l'œuvre d'Orient qui est chargée de collecter l'aide des catholiques d'Europe et de France pour porter secours aux catholiques orientaux. Et aujourd'hui encore, l'œuvre d'Orient est toujours là et apporte une aide conséquente aux catholiques orientaux. Aide levée dans le milieu catholique français en particulier. L'œuvre d'Orient a ainsi pu lever entre juillet 1860 et avril 1861 2 150 000 francs, dont 1 800 000 pour la seule France. C'est des sommes colossales pour l'époque. Le million de francs, c'est une somme très importante. Je ne fais pas le rapport avec la somme d'aujourd'hui. Autre intervention très intéressante, c'est qu'en 1860 a été créée à Paris l'Alliance israélite universelle, qui est destinée à apporter l'aide des Juifs d'Europe à leurs coreligionnaires dans le monde pour opérer leur régénération. Et l'un des premiers actes de l'Alliance israélite universelle est d'apporter de l'aide aux chrétiens libanais. Donc, il faut bien comprendre, en gros, l'Alliance israélite universelle, c'est le versant juif de l'œuvre missionnaire chrétienne. Ils font la même chose, des hôpitaux, des écoles, etc., mais à destination des juifs orientaux. Et ils bénéficient de la même protection française, même s'ils s'appellent Alliance israélite universelle. C'est une institution dirigée par des Français dont le siège est à Paris et qui bénéficie de la protection consulaire française. Enfin, les missionnaires protestants américains ont levé des fonds aux États-Unis pour apporter de l'aide aux chrétiens d'Orient alors que les États-Unis entrent en guerre de sécession. Donc, on voit que ces événements ont beaucoup frappé les opinions publiques occidentales et qu'il y a eu une aide matérielle levée par les églises chrétiennes et le judaïsme pour porter secours aux populations syriennes, les réfugiés syriens, les gens qui ont perdu leur terre et leur domaine, et ainsi de suite. On a donc eu en 1860-1861 un parfait exemple du déroulement d'une crise d'Orient. Vous avez un conflit lié aux évolutions internes de la société locale, dans lequel les puissances étrangères se trouvent impliquées du fait de leur prétention à exercer une protection sur leur clientèle locale. Ensuite, vous avez une explosion de violence débouchant sur des massacres et conduisant à l'intervention militaire de une ou de plusieurs puissances pour séparer les combattants et protéger les populations. et enfin une concertation internationale cherchant à faire dégager une solution politique permettant de ménager les intérêts des uns et des autres. C'est le schéma, qui va se répéter un certain nombre de fois au XIXe siècle, pas seulement pour le Proche-Orient, mais pour la Méditerranée, la Crète, les Balkans, et ainsi de suite. Et évidemment, vous sentez la résonance de ces événements avec ceux que nous connaissons depuis 2011. C'est en ça que je dis que ce que nous voyons aujourd'hui est la continuation du monde de la question d'Orient du XIXe siècle. En dépit des oppositions politiques, les hommes de Tanzimat partagent avec leurs homologues européens une vision d'ordre social qui passe par la mise au pas des populations locales rétives. Dans une certaine mesure, les réformateurs ottomans sont en train d'adopter une vision coloniale de leurs provinces arabes, puisque, vu de Constantinople, la Syrie apparaît avoir des populations arriérées et prisonniers des conflits d'un autre âge. Alors qu'en fait, ce sont des conflits nés de la modernité et non pas de l'héritage du passé. Mais il faut bien comprendre, pour le mécanisme de l'époque ottomane, c'est qu'en 1860, les hommes d'État ottomans raisonnent comme des Européens, avec la distinction qu'ils ne font pas la séparation entre chrétiens et musulmans. Mais ils ont la même vision des choses. Et ça devient assez fascinant à faire à mesure qu'on progresse dans le siècle, puisqu'on voit que les fonctionnaires ottomans ne sont pas fondamentalement différents des fonctionnaires coloniaux européens. Ils sont là pour apporter l'ordre à la civilisation à des populations arabes arriérées. Il suffit de voir leur correspondance avec le pouvoir central. Dans cette affaire, le poids des opinions publiques a été considérable. Les massacres ont provoqué un déluge d'invectives diverses contre les Ottomans et les musulmans dans la presse européenne. Mais il y a un facteur nouveau en 1860, c'est l'entrée en lice d'une nouvelle opinion publique que l'on peut définir comme une opinion publique musulmane. C'est ce que Ali Pacha explique de façon magistrale à l'ambassadeur de France Lavalette le 15 mai 1861. Je cite. Ali Pacha ne m'a pas laissé deviner sa pensée, mais il a fait de longues récriminations contre le langage des journaux de l'Europe et surtout des journaux français à l'égard de la Turquie. Je ne puis vous dissimuler, m'a-t-il dit, combien ma position est difficile vis-à-vis de mes collègues, vis-à-vis de l'opinion publique musulmane, avec laquelle nous sommes tenus de compter beaucoup plus que vous ne semblez le penser. Les attaques, les injures même auxquelles nous sommes journellement en but de la part des journaux européens, et cela, quelles que soient les concessions que nous fassions pour donner satisfaction à l'opinion publique de l'Europe, irritent ici les esprits et me mettent souvent dans l'impossibilité de répondre aux interpellations qui me sont adressées. Nous ne sommes plus au temps où personne ne s'inquiétait en Turquie de ce qui s'imprimait en Europe, pour ou contre nous. Que puis-je dire à ceux de mes collègues qui, lisant les journaux ou se les faisant traduire, m'accusent d'avoir consenti facilement à des concessions dans le but de ramener à nous l'opinion publique et me mettent sous les yeux des articles de plus en plus violents qui rendent l'islamisme tout entier responsable des actes odieux que les vrais musulmans sont les premiers à flétrir. Magnifique phrase, 1861. Tout gouvernement, je le reconnais, est moralement responsable des troubles qui peuvent éclater, mais peut-on raisonnablement attribuer à toute une nation, à tout l'islamisme, les massacres de Syrie ? Massacres, il faut le dire, sans exemple non seulement dans l'histoire de l'Europe, mais aussi dans celle de la Turquie. Tout notre passé n'est-il pas là pour prouver que le massacre des chrétiens n'est pas un des préceptes de notre religion, que l'on cesse d'une part des insultes qui nous irritent et de l'autre que l'Europe ne nous rende pas notre tâche complètement impossible en donnant à nos sujets chrétiens des aspirations qui les rendent ingouvernables. Et là, on voit donc le monde musulman bascule maintenant dans le monde de l'imprimé. Il y a des journaux, de la presse, et c'est un monde qui n'est pas séparé. Il y a interaction entre ce que dit la presse européenne et ce que ressentent les responsables ottomans qui lisent cette presse, et la presse locale lit la presse européenne. Quand vous ouvrez les journaux de l'Empire ottoman dans la seconde moitié du XIXe siècle, il y a des extraits complets de presse européenne. Et le discours qui est tenu sur l'islam en Europe est maintenant parfaitement connu des intéressés dans l'Empire ottoman. Là, on peut discerner deux interprétations des événements de 1860. Celle des Européens qui voient une haine des musulmans contre les populations chrétiennes qui auraient été soutenues par les autorités ottomanes au moins au début, et l'interprétation des Ottomans qui considèrent que les Druzes et les Maronites entretiennent depuis des siècles des antagonismes permanents, que ces antagonismes sont utilisés par les Européens pour affaiblir l'Empire et l'empêcher de se réformer. Les deux points de vue se rencontrent dans le refus de voir que les communautés locales sont des agents politiques autonomes qui tentent d'utiliser les uns et les autres pour réaliser leur propre but. C'est ça, donc, ces jeux complexes d'interaction qui se construisent à ce moment-là. Le règlement de la question libanaise ne met pas fin aux problèmes suscités par l'émancipation des non-musulmans. Il faut revenir aux Balkans, où l'Église grecque-orthodoxe n'accepte pas la revendication d'autonomie, voire d'indépendance des orthodoxes slaves. En 1860, soutenu par la Russie, les Bulgares rejettent l'autorité du patriarcat de Constantinople. Certains menacent même de passer au catholicisme uniate, d'où l'intervention active de la Russie en faveur du séparatisme bulgare. Finalement, sous pression russe, la porte reconnaît l'existence d'un exarchat bulgare en 1870, mais en 1872, le patriarcat de Constantinople excommunie les schismatiques, ce qui fait que dans les Balkans, à partir des années 1870, les chrétiens orthodoxes vont copieusement se massacrer entre patriarchistes et exarchistes. Donc, ce n'est plus un problème de chrétiens musulmans, c'est un problème de chrétiens entre eux et de chrétiens orthodoxes entre eux. Dans cette seconde moitié du XIXe siècle, la politique russe semble s'orienter plus vers un soutien des slaves orthodoxes qu'à une défense de l'orthodoxie en général. De façon habituelle, Moscou, Saint-Pétersbourg, pardon, soutient ainsi le séparatisme des populations non grecques par rapport au patriarcat œcuménique de Constantinople, non seulement chez les Slaves des Balkans, mais bientôt dans les provinces arabes, où Saint-Pétersbourg, on est. Les Russes soutiennent les revendications des orthodoxes arabes contre le haut clergé orthodoxe détenu par des Grecs ethniquement, d'où des tensions très très fortes au sein des églises orthodoxes du monde arabe, avec parfois des paralysies totales des institutions. Pendant plusieurs années, on ne peut pas élire tel patriarche, parce que grecs et arabes s'opposent violemment au coup de poing lors des élections. Cette affaire n'est pas encore terminée, on a toujours le même problème au patriarcat, de Jérusalem, orthodoxe de Jérusalem, dans le contexte Israël-Palestine de surcroît, ce qui complexifie les choses. Mais ceci va aussi avoir une conséquence, c'est que chez les Grecs orthodoxes, enfin chez les orthodoxes du Proche-Orient, il va apparaître assez tôt une conscience arabe, mais pas une conscience arabe en opposition aux Turcs, une conscience arabe en opposition aux Grecs. Mais ça conduira au XXe siècle un grand nombre d'orthodoxes arabes à devenir des leaders ou des acteurs du nationalisme arabe, après 1920, bien évidemment. Pour le reste, la porte doit évacuer la Serbie, qui reste nominalement sous autorité ottomane, et les Balkans deviennent très difficiles à gérer, parce que vous avez une confusion totale entre les questions nationales, religieuses et agraires. Alors, il faut comprendre ce qui s'était passé. C'est lors de la conquête ottomane, au XIVe, XVe siècle, XVIe siècle, la grande partie des terres appartiennent, après la conquête ottomane, aux musulmans. Probablement parce qu'une partie, de toute façon, de l'aristocratie chrétienne des Balkans s'est convertie à l'islam pour conserver ses propriétés. Et donc, au moment où vous avez l'émergence des nationalités chrétiennes dans les Balkans, vous avez le problème agraire. Les propriétaires sont musulmans et les paysans sont chrétiens. Et les deux questions se confondent. Et donc, la malaise agraire et la question confessionnelle poussent les gens à faire du nettoyage ethnique, c'est-à-dire un nettoyage entre chrétiens et musulmans dans une partie des Balkans, et puis, comme je l'ai dit, entre chrétiens ensuite dans l'autre partie des Balkans. L'attention se porte ensuite sur la Crète, peuplée d'environ 200 000 personnes, dont les trois quarts sont chrétiens, mais le dernier quart est musulman, mais ce sont des musulmans hellénophones. C'est-à-dire que ce sont des descendants de Grecs convertis à l'islam et pas de colons, entre guillemets, turcs. Au printemps 1866, les chrétiens se révoltent, demandant des réformes, mais aussi le rattachement à la Grèce, et l'insurrection va durer jusqu'au printemps 1869. Vous vous rappelez tous, évidemment, que dans 20 milieux sous les mers, le capitaine Nemo livre des armes aux insurgés grecs de la Crète. Ali Pacha instaure un nouveau statut de l'île qui crée des conseils représentatifs, mais qui laisse encore la réalité du pouvoir aux Ottomans et aux musulmans. Cette révolte crétoise suscite un nouveau mouvement philhellène en Occident, mais cette fois n'a pas conduit à une intervention militaire européenne. Les critiques contre l'autorité ottomane redoublent, mais on ne veut pas admettre que la question n'est pas celle de l'égalité entre musulmans et non-musulmans, mais celle d'un mouvement national dans un processus avant la lettre de décolonisation. Dans les dernières années du Second Empire, la politique officielle de la France est de n'établir aucune distinction entre les diverses nationalités ottomanes. Elle ne séparait pas dans sa sollicitude les sujets musulmans des sujets chrétiens. Vous voyez la confusion des références. Dans la première partie de la phrase, on parle de nation, et de la seconde partie de la phrase, on parle de religion. Cette fusion des races que la France soutient à la fin du Second Empire va se concrétiser par la création du lycée impérial de Galatasaray en 1868, où l'enseignement moderne est dispensé en français et en turc à des élèves de toute origine confessionnelle. Vous connaissez tous Galatasaray parce qu'il en est une célèbre équipe de football qui joue dans le championnat européen. Mais Galatasaray va former les élites de l'Empire ottoman jusqu'à la fin de l'Empire, et une bonne partie ensuite des élites de la République de Turquie, en tout cas jusqu'à une date très récente. En revanche, la position russe consiste à vouloir séparer les intérêts des chrétiens de ceux des musulmans en conciliant le développement parallèle et progressif des nationalités et des cultes divers placés sous l'autorité commune du sultan avec les exigences de l'équilibre européen. Ça, c'est le texte des diplomates. Ça veut dire que la Russie soutient le développement séparé des groupes ethno-confessionnels dans une logique de démantèlement progressif de l'Empire ottoman. Quant aux hommes d'État britanniques, ils se lamentent perpétuellement sur l'inaptitude des Ottomans à constituer un État moderne où toutes les composantes de la population seraient satisfaites. Mais néanmoins, c'est un empire qui reste utile. On l'a bien vu lors de la révolte des Sipaï. Les troupes britanniques ont pu passer par l'Égypte pour venir d'urgence en Inde. Et l'ouverture du canal de Suez en 1869 accentue l'importance géopolitique de la région. Reste que les Britanniques en pensent toujours comme Lord Palmerston en 1859. Il n'est pas très ici. Grand Pam. Phrase célèbre. Nous ne voulons pas l'Égypte et nous ne souhaitons pas la voir pour nous-mêmes, pas plus que tout individu rationnel qui a une propriété dans le nord de l'Angleterre et une résidence dans le sud souhaiterait posséder les auberges de la route du nord. Tout ce qu'il pourrait vouloir serait que l'auberge soit bien tenue, toujours accessible et lui fournissant à sa venue des côtelettes de mouton et des chevaux de poste. Autrement dit, si la route est bien tenue, ce n'est pas la peine de posséder l'auberge. Mais ce n'est pas ça qui se passera dans le réel, puisqu'en 1920, les Britanniques contrôleront toute la route de la Méditerranée à l'Inde. Ça ne va pas durer longtemps. Mais c'est cette question. En quelque sorte, l'Égypte et l'Empire ottoman sont des auberges sur les routes impériales de communication de l'Empire britannique du XIXe siècle. Dans la perspective de l'impérialisme du libre-échange, ce qu'on appelle l'impérialisme du libre-échange, c'est l'idée que pour que le libre-échange fonctionne, il faut que l'ordre règne. Et donc, contrairement à l'idée que l'impérialisme est lié au protectionnisme, c'est le libre-échange qui implique l'impérialisme, puisqu'il faut que les routes de commerce fonctionnent librement, que les emprunts soient remboursés, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'impérialisme du libre-échange. La Grande-Bretagne n'a pas gouverné l'Égypte, mais a empêché qu'une autre puissance s'en empare. Il faut laisser le commerce britannique améliorer l'état des choses et s'abstenir de toute croisade de conquête qui risquerait de susciter une guerre européenne. Une fois un minimum d'ordre imposé, on peut espérer une amélioration progressive des conditions grâce au contact grandissant avec le monde extérieur. Si les Européens se montrent particulièrement soucieux de l'émancipation des populations non musulmanes en terre d'islam, ils agissent en parallèle au Tunisie et Maroc en faveur des Juifs indigènes, dans une logique à la fois de considération humanitaire, de solidarité religieuse et de lutte d'influence, à aucun moment il ne pense qu'il y ait contradiction avec celle de la domination européenne sur les musulmans dans les possessions coloniales qui sont en pleine expansion. Après tout, pour les Européens, il s'agit du même processus de civilisation qui s'exerce, mais qui prend des formes différentes selon les lieux. Je vous remercie pour cette séance et nous passerons après la pause à un autre sujet.